l'évangile de Saint Jean. Je ne les reprends pas. Si nous faisons cette lecture pour essayer, à travers la vie apostolique de Jésus, de remonter à la source de cette vie apostolique, c'est-à-dire le sacerdoce de Jésus. Sûrement que l'évangile de Jean, ainsi que l'épître aux Hébreux, sont très orientés vers le mystère du sacerdoce. Ceci, c'est un fait. Et les très bons exégètes soulignent. Et donc, il est intéressant pour nous, si on veut vraiment entrer dans le mystère du sacerdoce de Jésus, contempler le mystère du sacerdoce du Christ, non pas nous contenter de l'analyse de théologien scientifique tel que nous donne saint Thomas, mais essayer d'avoir une vision de théologie mystique sur le mystère du sacerdoce du Christ, puisque c'est un sacerdoce d'amour, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. On ne peut donc pénétrer pleinement dans ce mystère que par le point de vue de la finalité, que par le point de vue de l'amour. Autrement, on ne le voit que d'une manière seconde. Et on ne saisit pas ce qui est essentiel. C'est pour ça que je crois important d'essayer de saisir à travers tout l'évangile de Saint Jean ce mystère du sacerdoce. Nous avions vu la dernière fois comment la grande révélation de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, commande d'une certaine manière les trois premiers gestes de la vie apostolique de Jésus, réservés au peuple d'Israël. Chasser les vendeurs du temple et Nicodème. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très important, l'ordre de ces trois moments. Et que, de fait, c'est à Cana où ça commence. C'est pour ça que j'en souligne, hein, et le souligne le premier signe. Tu pourrais très bien ne pas le souligner, puisque ça va de fait. C'est le premier qui donne. Non, il le souligne. Et ça, c'est intéressant. Parce que nous, si nous avions donné un conseil au Saint-Esprit, nous aurions dit d'abord chasser les vendeurs du temple à Jérusalem. D'abord purifier le mystère de l'adoration. Puis ensuite, montrer ce qu'est l'amour dans ce qu'il a de plus fort. Et en dernier lieu, la doctrine. Ou mettre au contraire l'aspect premier, chasser le vendeur du temple, purifier la doctrine, et puis en dernier lieu les noces de Cana. Je suis persuadé ainsi. Si vous n'avez qu'à réfléchir spontanément ce que vous ferez. Or, le Saint-Esprit, l'auteur principal de l'évangile de Saint Jean, Jean étant docile au Saint-Esprit, nous donne de fait cet ordre. Purification du temple, Nicodème. Et ceci dans la lumière même du mystère de l'agneau. Donc de la miséricorde. L'agneau qui porte l'iniquité du monde. S'il porte l'iniquité du monde, c'est pour nous purifier de cette iniquité. Il la porte pas pour le plaisir de la porter. Hein. Il la porte pour être le sauveur. miséricorde, la première miséricorde, c'est de permettre au cœur de l'homme d'aimer. Jésus apporte un nouvel amour, les noces de Cana. L'eau transformée en vin, tout symbolisme, il apporte un nouvel amour. C'est quand même quelque chose de premier, cela. Ce premier amour transforme l'adoration, mais une exigence nouvelle dans l'adoration. On ne peut plus faire de confusion entre le profane et le sacré. Ce que les vendeurs du temple auraient eu grande envie de faire, parce que le commerce n'est pas précisément sacré. C'est même, je crois, l'occupation humaine la plus de l'aspect sacré. Et qu'à voir ceux qui travaillent dans les banques, ils sentent très fort ça. Très très fort. Dans quelle mesure un chrétien peut-il se salir les mains avec la banque? Les spéculations sur les banques. Je me souviens de certaines conversations avec de très très gros banquiers suisses que je connaissais bien. Et je t'affirme, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Pas si simple. Et si je pars en Suisse avec les secrétaires des syndicats chrétiens, première conférence donc demain, l'économie et le chrétien. C'est bien comme sujet. Tout le problème de l'économie. Qu'est-ce que ça représente? Gagner de l'argent. Gagner de l'argent n'implique pas de finalité. Gagner de l'argent pour le plaisir de gagner de l'argent, c'est infra-humain. Bon. C'est en dessous du niveau de la mer, au point de vue humain. Au point de vue moral, alors au point de vue chrétien, c'est bien évident. Là, c'est très important de voir comment Jésus fait cette séparation, cette distinction. Comment la grâce ne bâtisse pas l'économie. Vous n'avez pas une économie chrétienne. Je sais bien qu'il y a la banque du Saint-Esprit, mais ça c'est autre chose. Parce que c'est pas la banque du Saint-Esprit, ça ne peut pas. On baptise l'homme qui a diverses activités et qui a des activités économiques. Mais c'est l'homme qu'on baptise, c'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que si on est attentif à l'Évangile, on s'aperçoit que c'est toujours le cœur de l'homme que Jésus regarde. Et peut-être c'est ça qui nous fait comprendre cette miséricorde. C'est de transformer le cœur de l'homme. Et quand Jésus chasse les vendeurs du temple, c'est pour transformer le cœur de l'homme religieux. Puisque dans le temple, c'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu de la prière. Et alors, on reconnaît le zèle de Jésus pour le Père. Et puis, troisième moment, la miséricorde à l'égard de Nicodème, la purification de l'intelligence par l'enseignement, par la doctrine. Jésus enseigne Nicodème, et je vous ai dit, c'est la plus belle leçon théologique qui a été donnée. La plus grande, et d'une certaine manière, la théologie se fonde là-dessus. Et que toute théologie reprend ce que Jésus dit à Nicodème, tout le temps. Et c'est très extrêmement significatif que Jésus touche tout de suite le point le plus important, naître de nouveau, tout le mystère de la grâce. Naître de nouveau. Vous voyez les trois grands gestes de miséricorde c'est le prêtre lui-même. Et le prêtre ne peut être miséricordieux que dans la mesure où il est agneau. C'est un fait. C'est-à-dire dans la mesure où il est donné comme une victime, comme une offrande, dans la mesure où il est offert au Père. C'est dans la mesure où l'on vit cette offrande qu'on est capable de faire des gestes miséricordieux. Autrement, on retombe tout de suite dans la justice. C'est un fait. Alors on devient fonctionnaire. Saint-Père a rappelé que le sacerdoce, ce n'était pas une fonction. C'était bien ça. Parce que le fonctionnaire, c'est celui qui vit la justice. Au sens très très fort. En tant que fonctionnaire. Tandis que le prêtre, c'est celui qui, étant offert, le prêtre chrétien, le prêtre du Christ, étant offert avec Jésus, à la suite du Christ, comme agneau qui porte l'iniquité du monde, devient source de miséricorde. Et le premier effet de la miséricorde divine, c'est de purifier le cœur pour que le cœur soit capable d'aimer. Purification de l'amour humain en amour divin. Puisque seul l'amour divin peut être parfaitement efficace et aller jusqu'au bout de ses exigences en assumant le cœur de l'homme. Second effet, c'est par rapport à l'adoration. Et le troisième, c'est par rapport à l'intelligence. Je n'insiste pas plus, hein, mais c'est important de comprendre que la première révélation du sacerdoce du Christ, selon l'évangile de Saint Jean, c'est de nous révéler que ces trois gestes de miséricorde qui portent sur les trois grandes misères, c'est d'être, ne plus avoir aimé, ne plus être capable d'adorer. Et vous voyez comment la confusion du sacré et du profane supprime l'adoration. Parce que c'est l'adoration qui nous donne le sens du sacré. Et si vous ramenez le sacré au profane, vous n'adorez plus. Troisième purification, celle de l'intelligence, parce que c'est la troisième misère. C'est de confondre la naissance d'en haut avec la naissance humaine. Confondre ce qui vient d'en bas et ce qui vient d'en haut. Alors, le second moment est très important. C'est lorsque il y a un petit moment de crise chez les disciples de Jean-Baptiste. Donc ce n'est plus le grand silence du désert. C'est au contraire l'agitation qui se fait au désert. Et cette agitation, comme dans toute agitation communautaire, provient de la jalousie. Toujours la jalousie qui agite et qui enlève la paix et qui enlève la joie. On voit tout simplement une jalousie entre les disciples de Jean-Baptiste par rapport aux disciples du Christ. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous, in coda venenum, et tous viennent vers lui, ce qui est insupportable. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui disent ça. Jean-Baptiste Jean-Baptiste a commis une très grave erreur. En rendant témoignage à Jésus. Parce qu'en laissant passer Jésus devant lui, il s'appauvrit. Et Jésus a beaucoup plus de disciples. C'est très curieux, hein, toujours les jalousies par rapport aux disciples. Et la quantité. On ne dit pas la qualité. On dit tous viennent vers lui. Alors, la réponse de Jésus. mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épousé est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est donc ma joie, la mienne, elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que je diminue. Ça, c'est la douche d'eau froide pour les disciples de Jean-Baptiste. C'est assez extraordinaire de voir que c'est dans ce climat de crise, de jalousie, que Jean nous révèle la grande grâce qu'il a eue en découvrant l'agneau. Il est resté au désert, mais tout en restant au désert, fait partie, il est au terme de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance Alors, il faut montrer, il faut, faut bien comprendre la manière dont, dont Jean-Baptiste se définit, lui, à partir de là. Celui qui a l'épousé et l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là. Toujours la même chose, le stabat. Il se tient là. Il est fixé au désert. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. sanglots, hein, comprenez bien, c'est pas révélé. Avec le chapitre 4, nous entrons dans le cycle de l'époux, et l'époux va nous faire comprendre ce qu'il y a de plus secret dans le sacerdoce de Jésus. Sacerdoce d'amour, où Jésus se donne. Où Jésus se donne. Et pas seulement celui qui réalise des actes de miséricorde. Mais il y a quelque chose de plus que de réaliser des actes de miséricorde. C'est se donner soi-même. l'été dans un état de misère, de murmure. Peut-être elle chantait, fredonnait. On aura très bien ça aujourd'hui. Tout à fait. Et Jésus la réveille. C'est le premier acte, c'est la première initiative de l'époux, de réveiller l'épouse pour qu'elle aime. Et voyez, c'est bien le cycle de l'époux, puisque c'est les rencontres auprès du puits. Or, les rencontres auprès du puits sont des rencontres nuptiales. Alors ici, il faut bien se rappeler toutes les rencontres auprès du puits. La rencontre du serviteur d'Abraham. La rencontre de Jacob. La rencontre de Moïse. Vous savez, ces trois grandes rencontres. Moïse qui rencontre, elles sont sept, je crois, sept filles. Évidemment, il va en épouser qu'une. Mais elles sont sept. Et on ne voit pas très, on ne précise pas. Mais c'est curieux, hein. Ces trois rencontres nuptiales. Et c'est toujours le même mot, donne-moi à boire. Et pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit bien de cette rencontre nuptiale, donne-moi à boire. C'est le mot d'ordre. Pour réveiller. Pour sonder le cœur de l'épouse. la charité avec la Samaritaine. Et l'eau vive, c'est la charité parce que c'est le jaillissement, l'eau vive, le jaillissement de la grâce liée à sa source. L'eau vive, elle est liée à sa source. C'est donc le fruit le plus immédiat du sacerdoce Jésus. Le don de l'eau vive. Et ce fruit le plus immédiat du sacerdoce du Christ va être de fait la charité. Une charité qui réclame d'assumer l'adoration. Les deux versants du dialogue. Les deux versants du dialogue. Le premier versant, c'est Jésus qui enlève d'une façon très directe et très rapide l'iniquité de cette femme et qui la pardonne. Et le second versant, c'est Jésus qui apporte la solution pratique à cette femme qui est liturgique. C'est presque un point liturgique. Faut-il adorer à Jérusalem? Faut-il adorer sur les hauts lieux? Et on voit très bien, si on faisait la psychanalyse de ce texte, c'est toujours intéressant parce que c'est un évangile qui nous montre la manière dont Jésus, lui, opère, non pas la psychanalyse, non pas use de la psychanalyse, mais opère la conversion du cœur. Extérieurement, c'est comme une psychanalyse. Il découvre le poids qui est sur le cœur de cette femme. Il découvre le poids qui est sur cette volonté de cette femme et qui explique toutes les déviations. On sait très bien quand l'amour de notre volonté, de notre cœur, ne peut pas s'épanouir librement. Il y a un petit arrêt, il y a un refoulement. Et regardez le lierre qui pousse. Dès qu'il y a une petite brique, une petite pierre qui est là, et regardez attentivement, vous voyez qu'immédiatement le lierre grossit. Le refoulement biologique. C'est extraordinaire de voir ça. Puis alors, un instant d'hésitation, puis il va passer au-dessus, à côté. C'est dans le lierre qu'on le voit mieux, parce que le lierre pousse tout droit, c'est un truc invraisemblable. C'est cette espèce d'appétit qui va directement. Jésus arrive en un instant, rapidement, pas des séances toute l'année, une rencontre. Une rencontre. Il enlève le poids. Le poids, c'est ce doute. Il n'y a rien de plus lourd que de douter par rapport à l'acte le plus foncier de notre vie, l'adoration. Faut-il adorer à Jérusalem ou ses hauts lieux? Vous voyez, l'aspect du doute, la suspicion qui pénètre l'élan premier du cœur. L'élan premier du cœur dans ce qu'il a de fondamental, c'est l'adoration. Adorer Dieu. Et quand vous étouffez cet élan, ou quand vous mettez un doute dans cet élan, alors il y a hésitation. On ne sait plus. Il y a une discussion. À la place d'adorer, on discute sur les modalités liturgiques. Hein? Constamment. On a envie de dire, mais adorer, plutôt que de discuter indéfiniment, de savoir si c'est la messe de Saint Pie V ou si c'est la messe de Saint Paul VI. Vous voyez, les modalités, ou si vous changez telle ou telle chose, mais c'est très bien laissé ça aux spécialistes. seul purifie notre cœur. C'est bien évident. Parce que le prochain, il n'a pas un cœur absolument pur, comme voulez-vous. Il n'est pas une source. Tandis que Dieu est une source. Une source d'amour. Alors il purifie. C'est l'adoration qui purifie. Celui qui n'adore plus ne peut plus aimer en toute limpidité. Et c'est ce qui explique comment cette pauvre femme, cette pauvre samaritaine, ayant été très secouée dans sa jeunesse, hésite. Alors, ça l'a fait dévier. 5 maris, 5 déviations successives. 5 impasses, parce que chaque fois c'était une impasse. Et le 5e n'est pas son mari. En cela, tu dis vrai. Il n'y a que ça qui lui restait vrai. Et je supporte tout de suite le petit filet de vérité. Vous voyez, je crois que c'est très important, ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine, pour nous faire comprendre l'éducation de Jésus, la pédagogie du Christ, en tant que prêtre, l'amour du Christ pour la Samaritaine, le dépassement du sacerdoce du Christ par rapport à sa judaïté, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le dépassement du sacerdoce du Christ, parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père. C'est ça qui me frappe le plus, hein. C'est quand vous regardez la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec l'officier royal à Cana, la rencontre de Jésus avec l'infirme de la piscine de Bethsaida, vous assistez à l'éclatement de l'action sacerdotale du Christ. Parce que c'est le sacerdoce de l'époux.
Ça existe de temps en temps.
du véritable amour, hein, d'amour divin. Parce que l'amour passionnel connaît des divisions, hein, et l'essence de toute espèce de division, ça c'est bien évident. Mais l'amour divin, seul l'amour divin fait l'unité substantielle. Seul l'amour divin, pas d'autre. Mais voilà la source. Et si on va à la source alors, c'est cet amour qui fait l'unité. Vous voyez là, dans ce cycle de l'époux,